Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Perco, proposé par TNP Consultant, cabinet de conseil multispécialiste. Je suis Alexandre Marc, manager spécialisé dans l'excellence opérationnelle et la performance commerciale, et je vous propose de vous présenter les femmes et les hommes qui font le commerce d'aujourd'hui. Vous découvrirez ainsi leur histoire, leurs convictions et les pratiques mises en œuvre pour performer davantage et dans la durée. Lors de ce premier épisode, nous allons discuter de données comportementales, comment améliorer la performance commerciale par un meilleur alignement métier-humain. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Giraud, expert en stratégie et data comportementale et partenaire au sein de TNP. Bonjour Franck.
Bonjour Alexandre.
Alors avant de démarrer, Franck, pourrais-tu s'il te plaît te présenter aux auditeurs à partir des qualificatifs suivants? Dirais-tu que tu es plutôt
scolaire ou autodidacte?
Ah, vaste question. À la base scolaire, bien sûr, parce que j'ai une formation d'économètre et de financier, mais ensuite de plus en plus autodidacte. Et puis j'occupe un poste à responsabilité au sein d'un cabinet de conseil, et donc une remise en cause permanente et un apprentissage permanent. Ça, c'est
créatif ou analytique?
Alors, bien sûr, je connais mon profil comportemental, donc je sais que mon profil est analytique. Par contre, donc être analytique, c'est résoudre des problèmes, et la résolution de problèmes nécessite de la créativité.
Commercial ou marketing?
Alors à la base, plutôt marketeur. On a surtout une différence de culture de la data, hein, finalement, entre le commerce et le marketing, et on a une convergence qui est indubitable, hein, depuis quelques années.
Digital ou physique?
Alors, très digital, parce que je travaille depuis des années sur la digitalisation, la transformation des fonctions marketing commerciales.
Acquisition ou fidélisation?
La performance, hein, s'acquiert dans la durée, donc il y a une nécessité de fidélisation dans la durée.
Études de marché ou virée au marché?
Alors moi, quand je travaille beaucoup sur la data, je dirais en priorité études de marché, mais on sait bien que rien ne remplace l'observation, et donc la virée au marché est de toute façon toujours nécessaire. Il faut sortir le nez de ces data.
Merci beaucoup pour cet exercice, Franck. Je te propose maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, contextualiser un petit peu notre échange. Peux-tu, s'il te plaît, nous décrire l'état actuel de la manière d'appréhender et de mesurer la performance commerciale?
L'évaluation, la mesure de la performance commerciale, le travail sur la performance commerciale, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, bien sûr. C'est un sujet que j'ai abordé tout au long de ma carrière, avec des grandes vagues, en fait, hein, des grandes vagues autour de la data et de la prise en compte du contexte. La performance, en fait, s'appuie sur la bonne prise en compte du contexte. Le premier niveau, c'est marketing, tourner autour de la concurrence, hein, et des questions de positionnement de l'entreprise, avec une manipulation d'une masse de data toujours plus importante, hein, pour réaliser des benchmarks et évaluer la stratégie concurrentielle de l'entreprise. Et puis est arrivé le client, la gestion de la relation client, la prise en compte du client, la constitution de méga-bases, hein, de plus en plus importantes, avec la segmentation, de la prédiction sur les comportements des clients, avec des outils, une automatisation de plus en plus importante autour du CRM qui se poursuit toujours à l'heure où on parle, hein, aujourd'hui. Hein, ça se poursuit avec les callbots. Hein, il se passe énormément de choses autour de cette étape-là. Donc on a une connaissance de plus en plus approfondie et détaillée du client, hein, qui permet de bien placer la relation commerciale dans son contexte. Hein, on segmente, on profile de mieux en mieux. Et ça, c'était deuxième étape, hein, d'usage de la data. Aujourd'hui, on voit qu'on passe dans une troisième phase. On passe de la customer experience à l'employé experience, en fait. Si on regarde ce qui a pu se passer autour du client, on remplace le mot client par le mot collaborateur, et on a une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer par une meilleure compréhension, une meilleure mesure, en fait, hein, aujourd'hui, des profils comportementaux des personnes, du profil collectif, comportemental collectif des équipes, ce qui va être déterminant dans la compréhension de la démarche d'amélioration de la performance commerciale.
Pour entrer un peu plus en profondeur de ta vision, hein, sur le marché, tu as parlé d'automatisation, de CRM, mais quels outils, quelles pratiques utilisent les acteurs justement pour mesurer cette performance commerciale au niveau individu?
Tout a commencé par une question de mesure, hein. Là encore avec trois étapes, hein. C'est-à-dire que quand on commençait à vraiment travailler de manière approfondie sur la performance commerciale, l'enjeu c'était vraiment un enjeu d'adéquation entre les objectifs bien quantifiés, bien évalués et des résultats à suivre, à tracer avec la mise en place de tableaux de bord de plus en plus précis, de manière à mettre en place des boucles d'amélioration sur cette performance. Et puis on est monté d'un niveau, c'est-à-dire qu'on s'est ensuite interrogé sur la méthodologie commerciale. On a découpé les différents process, on a spécialisé les acteurs, les commerciaux sur différentes étapes du cycle de vente. Là encore, on a outillé, on a mesuré au sein des outils de CRM de manière de plus en plus précise. Et puis est arrivée la mise en œuvre de la psychométrie, la mise en œuvre d'outils, on va effectivement analyse comportementale dont on va parler, la possibilité de mesurer, de quantifier les comportements humains. En fait, ce que l'on sait, c'est que tout est question d'énergie. En fait, quand une personne est alignée avec son poste, de manière contextuelle, hein, avec son objectif, elle va pouvoir consacrer toute son énergie à l'atteinte de ses objectifs. Et c'est la même chose pour une équipe. Si une équipe est alignée sur son objectif stratégique, elle va pouvoir se concentrer pleinement à l'atteinte de cet objectif. Il est vraiment important de mesurer, d'être en capacité de mesurer cet alignement comportemental de manière à pouvoir mieux mobiliser les personnes et les équipes, de manière aussi à mieux pouvoir les organiser. La question organisationnelle, managériale, c'est qu'est-ce qu'on attend véritablement de manière contextuelle d'une équipe commerciale. Et en fonction de cet objectif qu'on va lui donner, on ne va pas avoir besoin du même profil d'équipe. Il y a des équipes qui vont être à un moment donné très performantes, on va changer la stratégie commerciale et tout à coup leur performance va s'effondrer. On ne va pas constituer la même équipe, on ne va pas demander les mêmes types de profils pour une équipe à qui on demande de lancer un produit innovant. D'une autre équipe à qui on va demander de tout défoncer pour augmenter les parts de marché sur des produits déjà bien connus, bien existants au sein de l'entreprise, sur lesquels il faut conquérir de nouvelles parts, hein. Ou une équipe qui à l'inverse on va demander de travailler uniquement sur les marges, de restreindre le portefeuille, de passer de 10 produits à 5 produits et de verrouiller absolument tous les éléments de conformité, de qualité.
Peut-être avec ta casquette TNP, mais d'où est venue l'idée d'utiliser cette méthodologie ou cette discipline dans le conseil d'organisation et quel a été ton premier exemple d'utilisation ?
Alors, certains diront que les consultants n'inventent pas grand-chose, même si c'est pas tout à fait exact. Non, mais là, cet usage en fait de la psychométrie de l'organisation, ça date pas d'hier, hein, même si aujourd'hui on a l'heure est arrivée en fait. Il y a un usage plus massif et plus démocratique. En fait, la psychométrie. Alors déjà. Peut-être faut-il expliquer ce qu'est l'analyse comportementale en quelques mots et la psychométrie, hein, c'est la capacité à quantifier, à mesurer des éléments qui établissent le profil comportemental de chacun et qui sont assez stabilisés depuis l'adolescence, hein, qui évoluent assez peu ensuite. Et le fait de pouvoir mesurer ces éléments qui sont des éléments de pulsion, hein, c'est-à-dire qui aboutissent à des besoins, donc à des besoins de socialisation, des besoins plus ou moins importants de détails, de cadres, des besoins de délai ou pas, est-ce qu'on est patient, impatient, est-ce qu'on a besoin de tenir le volant, la télécommande de la télé ou pas, enfin voilà, ces éléments-là en fait permettent de prédire, c'est ça la bonne nouvelle, des comportements en situation de travail. Un bon mentaliste va pouvoir comprendre, c'est souvent le cas de recruteurs, hein, des bons recruteurs, va comprendre comment une personne va se comporter en situation de travail, mais il y a toujours un moment où on se plante. On n'arrive pas systématiquement à avoir toujours tout bon. En fait, avec un outil d'analyse comportementale, on maximise sa performance en fait et sa capacité de prédiction. Donc ça c'est un élément clé. Maintenant le fait de on peut mesurer la capacité de quelqu'un à mieux communiquer ou à prendre des décisions, mais quel usage on en fait ? Du développement personnel, hein, avec ce type de connaissances, mais on peut aussi utiliser cette connaissance pour améliorer l'organisation et optimiser la performance.
Et alors, qui sont les premiers qui en ont eu recours ?
Les premiers à en avoir vraiment eu l'idée, ce sont les militaires de l'US Air Force à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont eu un problème à traiter. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il y avait une telle différence dans l'accidentologie des équipages de forteresses volantes, hein, les fameux B-52, alors que les personnes, les membres des équipages étaient recrutés de la même façon, formés de la même façon, encadrés de la même façon, utilisant les mêmes équipements. Et pourtant, avec des écarts aussi importants, ils ont introduit donc des éléments d'analyse comportementale. Et là, tout s'est éclairé. C'est là où on a vraiment pris conscience de l'impact dans la dynamique collective, la dynamique des équipes, dans la prise de décision.
Excuse-moi de te couper, quand tu dis ils ont intégré des éléments, c'est quelle typologie d'éléments ?
Alors, ils ont quantifié, en fait, ils ont mesuré les profils comportementaux des membres des équipages, donc avec des tests qui étaient soit sur questions ouvertes, mais plutôt, le plus souvent, là, en l'occurrence sur ce cas-là, l'équivalent des tests de Rorschach, en visuel, sauf qu'on utilisait en utilisant des mots, en se basant sur des éléments de stimuli, le cerveau réagit de manière plus ou moins instantanée, et donc qui permet d'avoir des résultats assez fiables dans l'analyse. Et là, donc, à la fois dans la performance personnelle, mais surtout, là, en l'occurrence, dans la performance collective, l'alignement plus ou moins important des personnes, du point de vue de leur comportement, induit des vitesses de réaction différentes dans la prise de décision, dans la compréhension, dans la communication, et donc une accidentologie différente.
Dernière question, Franck. Dans un monde où on voit que les soft skills surpasse les hard skills, et donc du coup avec cette dimension, cette pratique psychométrique qui va te permettre de jauger un petit peu ces soft skills, si tu devais citer 3-4 facteurs clés de succès pour une entreprise, organisation qui souhaiterait mettre en place cette dimension.
Alors ces facteurs clés de succès, on commence à bien les connaître par la mise en œuvre de projets que l'on peut conduire chez TNP. Bon, le premier, je dirais, c'est la robustesse. On doit avoir une approche la plus fiable possible et donc utiliser les outils les plus robustes possibles. Quand je dis les plus robustes, c'est-à-dire des outils qui ont fait l'objet d'une évaluation scientifique, et si possible de dizaines ou plus, voire plus de confirmations scientifiques de leur validité. C'est d'autant plus vrai que quand on applique ces méthodes à l'organisation, il va falloir l'appliquer à peut-être 100, 1000 ou voire plus collaborateurs. Donc il y a une logique de semi-automatisation qui nécessite une robustesse de ce qu'on met en œuvre.
Oui, c'est ça, parce que ce que tu dis là, si on traduit pour nos auditeurs, effectivement c'est une pratique qu'on peut décliner sur 10 collaborateurs ou sur 100 000.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer, et d'ailleurs on commence souvent par des proof of concept sur des petites équipes pour que nos clients appréhendent le potentiel de ce que l'on peut faire et se forment. Et mais ça peut être déroulé de manière rapide à des coûts marginaux faibles en fait grâce aux outils dont qu'on évoque sur des populations beaucoup plus importantes et cela de manière semi-automatisée. Mais pour pouvoir le faire de manière semi-automatisée, il faut avoir cette fiabilité. Et puis un deuxième facteur aussi qui est essentiel de ce point de vue-là, c'est la simplicité, bien sûr, d'usage. Il ne faut pas avoir 50 axes d'analyse, il faut avoir des choses qu'on comprenne facilement, qu'on peut manipuler facilement en termes de data. Il faut avoir disposé de solutions qui sont ouvertes, parce que les data comportementales, on est vraiment sur la data. Les data, c'est ce qu'on a mesuré, on va pouvoir les croiser avec d'autres types de data, avec n'importe quel type de KPI d'ailleurs, et ce pour n'importe quel type de poste. Il y a des tas d'études dans le monde entier en fait où on a modélisé, corrélé des éléments du profil comportementaux avec des KPI pour des conducteurs de truck aux États-Unis, pour des directeurs marketing, pour des pilotes d'avion, pour des gestionnaires de sinistres dans le monde de l'assurance. Voilà, ça s'applique à absolument tous les échelons d'entreprise, depuis le premier niveau jusqu'au directeur général. Donc, il y a besoin d'avoir cette publicité, ça c'est clair. Deuxième point. Il y a un troisième point qui est aussi essentiel, c'est la communication. Parce qu'on est sur quelque chose de sensible. Et on est sur l'humain, on est sur les collaborateurs qui sont les ressources vives de l'entreprise, qui sont considérés comme des personnes fragiles hein, du point de vue de la CNIL. Hein, ils sont sous contrat, donc on ne peut pas faire n'importe quoi en plus, avec cette data. Donc il y a une logique de confiance et de bienveillance qui est essentielle. Donc d'explication. Ces approches que l'on utilise, elles sont orientées pour un usage bienveillant. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre déjà ce qui fait le succès d'une équipe, pourquoi une équipe tout à coup est moins performante, pour la sortir de l'impasse. Ça permet de comprendre pourquoi les meilleurs sont les meilleurs et comment on peut augmenter le niveau global de l'ensemble. Et puis si on ne veut pas travailler de manière personnalisée, on a aussi la possibilité de travailler de manière anonymisée, en fait, hein, de travailler sur une logique de structure, hein, de business unit ou d'équipe, de manière à sortir des bons éléments de connaissance et d'amélioration de l'organisation sans faire le focus sur les personnes et les individus. Alors ça, cet élément de communication, ça amène un quatrième point qui en découle, qui est la conformité. Mais là, c'est identique à ce qu'on a pu faire pour les clients. Hein. On a la même problématique de RGPD. On va aussi plus loin sur l'éthique. Hein. Nous, on utilise un outil, par exemple, chez TNP, qui a tous les certificats éthiques qui vont bien. Et quand je parle d'éthique, hein, c'est un label qui est scientifiquement validé. C'est-à-dire que on valide l'analyse comportementale est faite sans biais hein, sur le sexe, sur l'âge. On valide le fait que on passe le test de manière la plus bienveillante possible, que ça ne peut pas être utilisé facilement contre soi. Voilà, c'est des éléments qui sont assez qui vont être importants qui sont des éléments de communication aussi. Hein. Nous, ça a été d'autant plus facile chez TNP qu'on a un département entier de data protection et donc cette partie de l'offre, hein, la data protection fait partie de l'offre. Et puis il y a un dernier point aussi essentiel qui est l'humilité. En fait, hein, par rapport à tout ça, l'humain, c'est quand même quelque chose de très complexe. Mmh. Et tout ne se résume pas à l'analyse comportementale, quelle que soit la performance de la mesure hein, que l'on peut avoir. Une personne, c'est aussi une biographie, c'est un parcours professionnel, c'est une formation, ce sont des centres d'intérêt, c'est une éthique. Voilà, donc on peut pas comprendre uniquement une personne par son profil comportemental. C'est évident, donc il faut avoir cette humilité-là. Et puis aussi, on est dans une logique d'innovation. On applique, on découvre l'usage de la data comportementale de manière beaucoup plus systématique dans l'organisation et dans le management. Et donc forcément, on peut commettre des erreurs. Et donc, il faut avoir une certaine prudence. Ça reste quand même de l'innovation.
C'est noté. Merci beaucoup, Franck, pour ces 5 facteurs clés de succès. Moi, je retiendrai un mot, c'est humain. Effectivement, l'accompagnement au changement est quand même très, très important avec cette logique, si j'ai bien compris, de feedback continu qui va te permettre d'implémenter cette démarche et qu'elle soit du coup acceptée par les collaborateurs. Donc, très, très intéressant. Pour terminer cet entretien, donc riche d'enseignement, peut-être avec une expérience plus personnelle, pourrais-tu, s'il te plaît, nous raconter une anecdote marquante survenue lors d'un diagnostic psychométrique?
Comme je forme à l'analyse comportementale, j'ai des tas d'histoires marquantes, que ça soit dans conformité commerciale, que ça soit pour des équipes que l'on doit faire passer d'une logique produit à une logique service. Mais si on fait vraiment un focus sur vraiment la notion de performance pure, je pourrais citer un audit que j'ai conduit il y a quelque temps pour une plateforme appel sortant d'un courtier français, une plateforme qui se situe à l'étranger en fait, en Afrique. Et donc on a déroulé l'audit hein, avec tous les axes d'analyse classique, mais en y ajoutant la dimension comportementale. Et là, ça a été extraordinaire. Il faut le dire parce que j'ai fait établir donc une fiche de poste de manière psychométrique par le management, à la fois le management de proximité, la RH et puis la direction de l'entreprise. Et on a mis en évidence un désalignement majeur entre la perception de ce que le management de proximité imaginait comme conseiller appel sortant performant et puis ce que la RH et l'entreprise en France, le courtier, imaginait. On a croisé les datas avec les datas de CRM, hein, qui sont nombreuses hein, sur les plateformes, et on a mis en évidence que c'était le manager de proximité finalement qui avait raison. Alors de manière un peu exacerbée, parce que sous la pression, ils avaient tendance à un peu exagérer les soft skills souhaités, mais c'était quand même eux qui avaient raison. Alors Ce qu'on a mis aussi en évidence, c'est que finalement, la RH n'avait pas tout à fait tort non plus. Hein. Mais il y avait une question de contexte. C'est-à-dire que la RH avait raison dans un contexte de plateforme appel sortant situé en France, en fait. Hein. Et imaginez donc un profil de conseiller évoluant dans un environnement assez sécurisé, très processé, ce qui n'était pas le cas de la plateforme à Dakar, hein. En l'occurrence, parce qu'il y avait c'était une plateforme qui était en création récente, avec beaucoup de turnover, déjà une instabilité assez importante, et puis malgré tout un écart culturel avec leurs clients français, qui nécessitaient de la part des conseillers beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de pugnacité, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'autonomie, en fait, hein, et pour être performant. Et ça, on l'a évalué, on l'a mesuré. Et ce qu'on a évalué aussi, parce qu'il ne s'agit pas, ça c'est un élément aussi très important, dans l'analyse comportementale, il ne s'agit pas de faire des clones, en fait, hein. On ne va pas cloner, même si on sait, en fait, quel est le meilleur profil de conseiller appel sortant, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait des conseillers qui n'avaient pas ce profil, mais qui avaient un rôle important dans la performance des équipes. À la fois, certains avaient un rôle d'expert, d'autres de facilitation. Hein, et comme on a analysé plusieurs équipes, on a pu évaluer la pertinence, la dynamique collective. Donc oui, belle expérience.
Merci beaucoup Franck, notre premier invité, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous partager tes convictions et facteurs clés de succès. J'espère que vous avez pu appréhender davantage ce qu'est l'analyse comportementale et comment l'utiliser pour aligner les objectifs métiers avec l'humain, vos collaborateurs. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode. Nous recevrons alors Édouard Perrin, directeur du réseau et membre du COMEX MACSF, pour échanger sur le renforcement de la relation client au travers d'une meilleure exploitation de son portefeuille. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis.